Vous écoutez La Croche Oreille.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission consacrée à la création sonore, aux musiques merveilleuses parce qu'elles sortent très souvent des sentiers battus, une émission qui s'intéresse aux œuvres et aux artistes qui inventent avec la matière sonore. J'ai le plaisir ce soir, très grand privilège, je devrais même dire, de recevoir le musicien, compositeur, créateur sonore Jean de Rome. Ça faisait tout de même très longtemps que je me promettais de vous présenter cette figure emblématique des nouvelles musiques et de l'expérimentation sonore du Québec. Jean de Rome, il est venu au monde au milieu des années 50 et il va développer un goût pour les instruments avant. Très tôt dans sa vie d'adolescent, il va trouver une flûte que sa mère abandonne dans un tiroir et débuter un parcours artistique très singulier pour l'époque. Jean de Rome va étudier le solfège au cégep de Saint-Laurent. On est en 72 et il va se frotter à la flûte au Conservatoire de musique du Québec. C'est donc solidement formé au classique de la musique que Jean de Rome va développer une approche très libre, mixant l'improvisation, l'exploitation d'objets sonores des plus variés et participer très concrètement au rayonnement des musiques nouvelles et actuelles. Je souligne, entre autres, qu'il a participé en 1983, ça fait tout de même un petit moment, à la fondation du collectif musical et maison de disques Ambiance Magnétique. Il a fait ça en compagnie de René Lucie. Jean de Rome a participé à de nombreux spectacles et lancé de nombreux albums, dont ce dernier intitulé « Souffle » que j'aimerais vous présenter ce soir. Ce projet est sans doute l'un des plus fidèles à la trajectoire artistique de Jean de Rome sur le plan de l'expérimentation. Il collectionne et explore depuis de nombreuses années toutes sortes d'objets sonores, dont plusieurs appos utilisés pour la chasse. Et là, j'ouvre les guillemets, il dit ceci, « Même si les objets que j'utilise peuvent être des jouets ou des appos de chasse ou des bidules trouvés dans un bac de recyclage, dit-il, cela n'a aucune importance pour moi. J'ai les yeux fermés et mes sens sont tendus vers le son à produire. » Je referme les guillemets. Et le résultat, franchement, est plutôt étonnant, parfois hilarant, d'autres fois carrément séduisant. Jean de Rome m'a accordé une rencontre il y a quelques semaines maintenant, en téléprésence, avec tout ce que ça comporte, de difficultés parfois pour la qualité sonore. Mais franchement, vous le verrez, ça a été un plaisir de l'entendre me raconter par bribes ce parcours artistique assez unique. Sur ce, parole à Jean de Rome suite à l'écoute d'une pièce intitulée « Karaoké » s'est tirée de l'album « Souffle ». Jean de Rome, bienvenue à l'émission. Grand plaisir de t'accueillir.
Ben oui, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Surtout que les émissions qui traitent de ces musiques-là sont de plus en plus rares. Alors, et c'est d'autant plus important.
Tout à fait, tout à fait. J'apprécie grandement cela dit. Écoute, Jean, Ça fait une cinquantaine d'années que tu explores le monde des sonorités, le monde musical. Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de, bon, évidemment, de faire de la musique, mais d'explorer de manière expérimentale?
En fait, c'est tout à fait par hasard. Ma mère, fraîchement arrivée en banlieue, s'est inscrite à des cours de flûte à bec qu'elle a abandonnés assez rapidement. Puis, quelques années plus tard, j'ai trouvé cette flûte à bec dans un tiroir. Puis, j'ai commencé à jouer. Puis, franchement, je pense pas que consciemment j'avais une attirance pour la musique, mais j'ai juste jamais arrêté. C'est comme, je me suis mis à jouer, puis je trouvais ça très intéressant. J'essayais de trouver, de reproduire des chansons que je connaissais, comme ça. Et puis, quand, à un moment donné, je revenais de l'école, et puis, on écoutait la télévision, et puis je jouais de la flûte à bec, jusqu'à temps que mes frères et sœurs me disent, ben, coudonc, va donc dans la cave, ou ben, arrête. Hein. Puis, je suis allé dans la cave. Au lieu d'arrêter. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, j'ai commencé par l'improvisation dans un sens, mais juste en fait par le plaisir de découvrir par moi-même. Puis ensuite, j'ai retrouvé la petite méthode de la famille Trapp que ma mère avait eue. Et puis, donc, j'ai appris les doigtés. Et ça a commencé comme ça. Puis de là, c'est fou, j'arrêtais vraiment jamais de jouer. Et puis, à partir de ça, j'ai passé à la flûte traversière, qui était... moi, à la flûte avec, tu vois, je jouais rapidement. Quand j'ai eu assez de dextérité, tout ça, je jouais du blues. C'était à l'époque où la flûte traversière était si populaire, avec Jethro Tull, tout ça, là. Et puis... rapidement, j'ai commencé à jouer dans des groupes, ce qu'on appelait le jazz rock, en fait, dans ce temps-là, qui était du jazz électrique dans les années 70. Et puis, notamment avec Pierre Saint-Jacques, pianiste Pierre Saint-Jacques, différents groupes qui ont mené au groupe Nébu, et puis à partir de là. Et puis, parallèlement à ça, j'étais curieux de tout ce qui faisait du son. Donc, je me suis mis à collectionner des objets sonores que j'introduisais dans mes spectacles. Ha ha ha!
Jean, dis-moi, est-ce que finalement, tu as une formation vraiment d'autodidacte? Tu n'as pas connu le curriculum traditionnel des écoles de musique?
En fait, je ne voulais pas prendre de cours. Mes parents, qui voyaient que j'étais fasciné par la musique, ils m'offraient de prendre des cours, mais moi, je ne voulais pas. Je voulais garder ça à l'état sauvage. Mais à la flûte traversière, à un certain point, j'avais personne pour me guider, puis il y avait des notes que je trouvais pas. Ça m'embêtait beaucoup. J'arrivais pas à déduire comment faire certaines des notes. Alors, puis dans les groupes où je jouais, ça m'était demandé de jouer, je sais pas, un la bémol aigu, puis je le trouvais pas. C'était idiot. Alors, j'avais accepté de prendre des cours. Et puis, dans le fond, ce que je voulais, c'est savoir le doigté de quelques notes. Mais en même temps, ça a entraîné que graduellement, je suis rentré dans l'entonnoir de la formation musicale. Alors, je suis rentré vers la fin des années d'école secondaire. Au secondaire, ce qui m'a donné les prérequis pour pouvoir être admissible au cégep. Là, je suis rentré en flûte classique parce que la flûte, à cette époque-là, probablement encore maintenant, il n'y avait rien pour un flûtiste qui jouait du jazz. Il n'y avait rien. C'était tout basé sur la formation classique. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait cégep, puis après ça, je suis entré au conservatoire à Montréal. J'allais jusqu'au niveau concours en flûte, mais tout de suite après mes études, je suis revenu à mon système autodidacte. Et puis, de toute façon, parallèlement, ce qui était assez drôle avec le conservatoire, c'est qu'il ne nous permettait pas de faire des concerts à l'extérieur. Mais moi, c'est des années où j'ai fait des centaines de concerts avec mon groupe, tout ça, sans autorisation. Thank you.
Dis-moi, Jean, tu as produit énormément d'albums au cours des 50 dernières années, des albums en solo, des albums de collaboration. Et en écoutant tes albums, en regardant les titres, ça m'amenait à une question toute simple. Pourquoi tu as choisi cette voie de l'improvisation?
Je m'intéresse à l'improvisation, mais déjà, l'improvisation, ça pourrait regrouper beaucoup de méthodes très, très différentes. Mais je m'intéresse à presque toutes ces approches. Autant que même quand dans mes études classiques, j'ai commencé aussi à jouer la flûte baroque, je m'intéressais beaucoup à l'ornementation et à l'improvisation de ces époques-là. En fait, c'est ce qui m'attire le plus dans la musique, c'est l'aspect très spontané de l'approche, où est-ce que l'improvisateur est à la fois compositeur et interprète. On est directement sur la ligne où il est engagé physiquement à produire la musique, mais en même temps, il a un regard sur ce qu'il est en train de produire, qui est une responsabilité, si je pourrais dire, sur ce qu'il est en train de produire, contrairement à dans un sens, sans vouloir charrier, mais un musicien classique peut toujours dire, mais c'est pas moi, là, j'interprète ce que l'idée peut se dégager de ce qui est joué. Mais moi, j'aime beaucoup plus cette implication-là directe, physique, qui est des fois proche d'un naufrage ou quelque chose où on est, le système débrouille et complètement caché. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'apprécie plus à entendre aussi de ce musicien.
Jean, on parle d'improvisation et ça nous amène évidemment à ce dernier album que tu viens de produire qui s'intitule « Souffle ». Il y a une exploration avec différents instruments avant, des objets, des jouets. Bref, tu exploites là, tout un univers qui est un peu fascinant, même pour l'imagination. Et je me demandais s'il n'y avait pas derrière ce projet l'idée d'un manifeste artistique où j'ai trouvé ça tellement exemplaire, ce projet.
Ben, premièrement, je te remercie de l'écouter. Quand j'ai, en sortant ce disque-là, je me suis dit que personne ne va vouloir écouter ça. J'étais pas inquiet parce que je suis très content du résultat, puis je suis fier. Si tu dis que c'est un manifeste, peut-être que c'en est. C'est pas un testament, mais ça a un petit côté comme ça parce que ça fait toute ma vie que je joue les apôtres, tout ça. Mais c'est presque la première fois que je présente le travail de peau et le travail avec les instruments inventés en solo aussi clairement, tu sais, aussi de manière aussi frontale, même si j'ai joué beaucoup de cette même instrumentation-là, ou presque, entre autres dans mon duo qui s'appelle « Les partitions des oreilles » avec Joanne Etu, mais aussi dans plein d'autres circonstances, toujours liées à l'improvisation, c'est-à-dire que comme joueur de flûte et saxophone, etc., je suis dans des tas de projets variés, mais quand c'est vraiment en improvisation libre, c'est la majorité du temps que je vais amener aussi ce bric-à-brac d'objets que j'ai simplifié, remarque, parce que quand j'ai commencé à faire ça, j'emplissais une camionnette pleine de matériel. Là, ça tient dans une valise, une petite valise. Pour le disque, là, j'ai ouvert à un petit peu plus, mais c'est l'aspect de la facilité du transport est très important. Ouais. Il y a beaucoup à dire.
Oui, il y a beaucoup à dire, Jean. On va d'ailleurs immédiatement écouter une pièce ou deux parce qu'on est en live. Alors, j'ai pas fait une grande planif, mais on va écouter ensemble un extrait ou deux de ce beau projet intitulé « Souffle ». Voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Alors, on est de retour après un bref battement promotionnel.
Écoutez CKRL 89.1. Vous écoutez l'accroche-oreille.
Ben, rebonsoir tout le monde, c'est l'accroche-oreille, Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h sur les ondes sonores de CKRL, le 89.1. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant, ou en tout cas presque. Cela dit, je me trouve ce soir en compagnie du compositeur, improvisateur et expérimentateur sonore et musical Jean de Rome, qui lançait en février dernier un bel album intitulé « Souffle », un album de sonorité construit à partir d'appôts qu'on utilise pour la chasse, ces petits objets qui émettent tantôt le son de la bernache, du canard, du dindon sauvage et j'en passe. J'ouvre les guillemets, il dit ceci, « Je sculpte l'air dans un temps qu'on se donne », raconte Jean de Rome. « Il n'y a pas d'anecdote, pas de récit théâtral, ce n'est pas de la musique, de film muet, c'est simplement du son. Pure joie de vivre », dit-il, à l'image de cet album dont je vous propose ce soir des extraits assortis des propos de Jean de Rome. Jean de Rome, j'y reviens, c'est une figure majeure de la musique de création et d'expérimentation. Multi-instrumentiste et performeur, il compte plus d'une centaine d'apparitions sur disque, ça depuis 1978 tout de même. De Rome est titulaire de plusieurs distinctions, incluant la Freddie Stone Award pour son action dans le domaine des musiques de création au Canada. Il a été récipiendaire d'une bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que de 3 prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique. Homme de vent et de musique, dit-on, il célébrait ses 45 ans de carrière en 2015 sous l'étendard Année Jean de Rome pour mettre en relief la richesse et la variété de son travail de musicien, d'improvisateur, de compositeur et d'archiviste. Voilà, c'est toujours un peu réducteur ces présentations pour des carrières aussi vastes, mais voilà, sans plus tarder, parole à Jean de Rome suite à son adieu aux animaux, c'est tiré de l'album Souffle.
Thank you.
Jean, ce projet Souffle, ce qui m'a à la fois étonné, ravi, je dirais, c'est qu'il y a une pièce qui est une composition de Steve Lacy. Et je trouvais ça vraiment fabuleux parce que c'est un pionnier du free jazz, c'est un artiste complet dans son art. Je me demandais si c'était pour toi une source d'inspiration, un clin d'œil, de le retrouver parmi tes œuvres.
Oui, Steve Lacy, c'est une de mes grandes influences comme compositeur, comme joueur, mais aussi comme une espèce de modèle. C'est vraiment un artiste exemplaire, à mon avis. Exemplaire, inspirant, dans le sens où, premièrement, à cause de l'intégrité de sa démarche, l'authenticité, sa curiosité envers des tas, une foule de sujets, le fait qu'il ait été l'ami de beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes, presque toute la génération des beats, poètes américains, etc. Il a travaillé avec des danseurs, avec des peintres, des sculpteurs, des musiciens, improvisateurs, des jazzmen, etc. C'est vraiment une personne qui m'a beaucoup impressionné et que j'ai rencontré quelquefois. J'ai même eu la chance de jouer avec lui un mois avant sa mort, en 2004. Et c'est quelqu'un qui m'a servi de boussole d'une certaine manière. Là, j'ai commencé même un groupe qui s'appelle Somebody Special qui ne joue que des chansons de Steve Lacy. Mais la pièce que j'ai inclue dans le solo, dans mon solo souffle, c'est vrai, c'est la seule pièce écrite du disque. Et puis c'est la seule pièce qui n'est pas de moi aussi. C'est une pièce qui s'appelle Cloudy, que lui joue et que j'ai entendu la première fois que je l'ai entendu jouer. En 76, à l'église au Toit-Rouge à Montréal, à Saint-Jean-d'Evangeliste, le concert m'avait chaviré, m'avait bouleversé. Et cette pièce-là, je l'avais notée par la suite. Et j'ai toujours voulu la jouer. Et puis, je l'ai jouée. En fait, je l'ai toujours pratiquée presque comme un exercice pour moi d'une technique de la flûte qui s'appelle whisper tone, ou son de flageolet, ou whistle tone. En tout cas, c'est qu'on fait sortir un mince filet d'une harmonique aiguë de chaque doigté. Et puis, ça prend presque pas de souffle. C'est comme vouloir faire de la buée sur un miroir, quelque chose comme ça. Alors, j'ai souvent pratiqué cette technique-là en jouant le morceau Cloudy. Là, j'ai décidé de l'inclure parce que là, c'était vraiment, justement, ce disque-là était beaucoup une recherche sur les manières différentes de jouer des instruments. C'est pour ça que j'ai choisi que la seule pièce qui serait pas de moi serait cette pièce de Cloudy. Et c'est d'ailleurs très drôle parce qu'il y a une critique qui vient juste de sortir que j'ai lue hier. Où est-ce que le type, il aime bien le disque, puis il a absolument détesté la pièce Cloudy. Il en a souffert là, physiquement. Mon Dieu.
On va écouter ensemble ce que ça donne, parce que mon intention, c'était de faire entendre aux auditeurs.
Oui, il faut l'écouter. C'est comme un fil ténu. Mm. C'est comme si la chose était juste au point de s'évaporer. Mm.
Hey, ça démarre. On écoute. Thank you. Jean, je t'avais raconté ça un peu dans nos courriels. Je regardais les titres et je me disais, bon, est-ce qu'on peut faire du chemin sur les titres? C'était pas tellement évident. Ce matin, en revisitant les titres de l'album, il y a beaucoup de titres tout de même qui sont des références à des états d'esprit, à des états physiques. Je pense entre autres, là, Prédateur bipolaire, La harpe asthmatique. Il y a quelque chose d'autobiographique dans ce projet aussi.
Oui, ben les titres, c'est vrai qu'ils sont très évocateurs. En même temps, ils sont, je les ai tous donnés après coup. Toutes les pièces sont des improvisations qui démarrent sans titre. Je leur ai donné des titres parce que dans certains projets où on a fait la même chose que ça, c'est-à-dire des séries d'improvisations, après ça, on s'est dit, bon, on met pas de titre parce qu'il y en avait pas. Alors on appelle ça improvisation 1, 2, 3, 4, ou tu sais, des fois c'est un peu sec. Et puis finalement, c'est justement dans les situations où on rencontre un animateur radio, tout ça, puis il dit quelle pièce que je mets. Là, tu regardes ta pochette, c'est marqué impro 1, 2, 3, 4, puis tu sais même pas c'est quoi. Mais c'est au moins comme aide-mémoire, je vais mettre des titres. Et puis ben, c'est pas des titres, j'aime ça jouer avec les mots, tout ça, et puis je suis capable de représenter la musique par des mots. Mais j'ai une résistance à ça, parce que dès qu'on met des mots sur une pièce de musique, les gens entendent la pièce à travers le filtre de ces mots. D'ailleurs, jeune musicien, en présentant, je faisais l'expérience, je m'amusais à présenter des morceaux, puis à inventer une histoire pour dire cette pièce, puis là, j'improvisais une histoire, et puis c'était pas rare que les gens venaient me voir après, puis ils me disaient qu'ils avaient vécu exactement ce que j'avais décrit. Alors, c'est pour dire que des fois, le langage peut servir d'aide-mémoire ou de tremplin, mais aussi de carcan, et puis je me méfie de ça. Mais quand même, effectivement, la liste de pièces, j'en étais très fier dans ce discours.
Thank you.
À l'écoute de ce disque, je mettais en perspective le passé, le grand nombre d'albums que tu as produits. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui a changé, d'après toi, dans ton travail musical, ton travail sonore, depuis le début? Arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ou qu'est-ce qui, je pourrais le prendre à l'inverse aussi, en disant, bon, qu'est-ce qui est resté le noyau dur de tes projets?
Écoute, le noyau dur de mes projets, dans le fond, j'en ai une espèce de connaissance intuitive, mais en même temps, je suis encore à la recherche du noyau dur, toujours de plus en plus peut-être proche ou en direction du noyau, comme si on descendait dans les profondeurs de la Terre, on se croirait dans Jules Verne. Mais sinon... C'est assez particulier parce que pour moi, je sens que je suis dans une continuité, même si ce que je produis et me semble, et souvent les gens le remarquent ou parce qu'ils aiment ça ou parce qu'ils s'y opposent, c'est je produis des choses extrêmement rapides. Et puis, j'ai toujours l'impression de fournir à chaque fois un des morceaux du puzzle, comme si on pourra voir l'image complète juste à la fin, quand j'aurai terminé. J'espère avoir tout fini et sortir mes morceaux de puzzle. Là, ce qu'aurait dans Georges Perret, dans la boîte d'emploi, mais j'espère pouvoir réussir à tout fournir les morceaux du puzzle d'ici la fin, pour que l'image complète se dégage. Et ce qui me frappe, c'est que les publics de musique sont très spécialisés. Ce qui fait que beaucoup de gens ont une vision vraiment partielle de ce que je fais. Il y en a qui me connaissent vraiment comme un jazzman qui joue de la musique, du jazz traditionnel, d'autres qui me voient comme un improvisateur débridé, agressif, quelque chose comme ça, d'autres qui me voient comme un compositeur sérieux, ou, tu sais, peu importe, mais à chaque fois, c'est toujours comme seulement une partie ou un morceau du puzzle. Ça me fait rire des fois, d'autres fois ça me comment je pourrais dire, parce que je trouve qu'il y a des choses que j'aime bien garder comme des terrains de travail que j'aime bien garder comme ça. Bon, parce que quand on parle de musique, tu sais, si j'étais un artiste visuel, mais je pourrais dire que j'ai fait des eaux fortes, des poteries, des sculptures, des œuvres audio-visuelles, des choses comme ça. C'est un peu ça, mais c'est en musique. C'est du multi en musique.
Tu revendiques, finalement, à travers l'improvisation et la diversité de tes projets, là, une liberté de création assez radicale, finalement.
Bien, il faut qu'elle soit... Il faut qu'on puisse... moi, je pense que comme artiste, il faut... faut essayer de maintenir au maximum ce champ d'action-là, cette liberté-là. Et puis, on peut avoir une action très subtile ou homéopathique dans certains projets, puis dans d'autres fois, y aller vraiment en fond. C'est de pouvoir créer ce qu'on pense qui convient le mieux à chaque situation.
Et Jean de Rome, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre. On pourrait faire 3 émissions ensemble, sans doute. Mais grand plaisir ce soir de faire entendre ce beau projet, le projet Souffle, qui est disponible là, sur les plateformes numériques.
Merci beaucoup. C'était un plaisir. on continuera ça.
Tout à fait, au plaisir, salut. Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir sur les sonorités de l'artiste sonore et musicien Jean de Rome qui lançait en février dernier un album intitulé Souffle que vous retrouverez sur la plateforme Ambiance Magnétique. Merci d'abord à Jean de nous avoir permis l'écoute d'extraits de ce bel album et de m'avoir accordé cet entretien que vous retrouverez sur le site La Croche-Oreille, facilement repérable sur la toile. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, toujours le 89.1 pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.